Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien ce matin, c'est Charles Marinakis qui m'a rejoint, président de Century 21 France. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec moi sur ce plateau. 945 agences, plus de 7000 collaborateurs en France. J'aimerais qu'on fasse un petit bilan rapide de ce premier semestre 2026 sur l'évolution des prix et puis sur l'état des ventes.
En fait, c'est un semestre relativement stable, en réalité, à notre plus grand désarroi, parce qu'on espérait bien, si vous voulez, continuer sur l'énergie et la dynamique de ce marché en 2025. Oui. On avait fait deux années difficiles, vous vous en souvenez, 2023-2024, pour cause de hausse de taux des conditions d'accès au crédit. Puis 2025 a été une bonne année, qui avait retrouvé de l'énergie et de la tonicité. Et puis, on peut pas dire que ça se soit, si vous voulez, ça avait perduré sur l'année 2026. Voilà. Un premier trimestre plutôt correct, puis un deuxième trimestre qui a ramené, si vous voulez, la volumétrie quasiment au niveau zéro, c'est-à-dire que la variation des ventes, c'est aux alentours de 1% de régression, ce qui est pas beaucoup, mais ce qui est quand même le signe d'un marché qui est en train de se tasser.
C'est le Moyen-Orient, l'inquiétude, les projets immobiliers qui sont retardés, et puis les conditions de marché, des taux plus élevés qu'il y a 5 ans, qui ne favorisent pas les transactions, c'est ça les raisons?
Oui, c'est ça, exactement. C'est l'agrégat de plusieurs facteurs, si vous voulez, qui sont venus polluer l'équilibre naturel de ce marché. Le premier d'entre eux, bien sûr, c'est les conditions d'accès au crédit. C'est l'augmentation, la légère augmentation des conditions d'accès au crédit. Nous, c'est quand même notre levier principal.
Oui.
Et puis après, il y a tout un contexte géopolitique international, même politique nationale. Il y a aussi une problématique, si vous voulez, de la stabilité fiscale du pays, etc. Voilà, donc il y a plein de paramètres qui viennent contrarier un petit peu ce marché-là, mais le vrai paramètre, celui qui est déterminant, c'est quand même les conditions d'accès au crédit.
On avait un sujet tout à l'heure de Marie-Cœur de Roy qui disait que malgré tout, les banques essayaient de maintenir leurs offres sur le crédit au moins jusqu'au mois de septembre. Vous pensez que ça va rester comme ça?
Oui, alors tant mieux, parce que là, aujourd'hui, on a eu aussi des périodes où les banques étaient réfractaires à consentir des crédits immobiliers. Là, c'est plus le cas. Elles sont, je crois, dans de très bonnes dispositions. Le problème, c'est que la volumétrie, si vous voulez, des transactions n'est pas au rendez-vous parce qu'on n'a pas l'équation entre l'offre et la demande. Les prix sont restés relativement élevés et puis les conditions d'accès au crédit interdisent à un certain nombre de Français de faire l'acquisition de leur résidence principale. Voilà, donc il faut retrouver cette situation d'équilibre que nous avions trouvée en 2025 et qu'on a un peu perdu sur le début de l'année 2026.
Alors là, je prends l'exemple de Paris, mais il y a des délais de vente qui se sont allongés à Paris notamment, des délais de détention aussi des biens. Avant, on restait sur un bien en moyenne 7 ans, maintenant c'est plutôt 10 ans, et puis on manque de biens quoi qu'il arrive. Là, on vient de parler de la taxe sur les logements vacants que le Conseil de Paris veut finalement mettre en place. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va remettre des biens? On parle de 100 000 logements sur le marché.
Alors, j'ai pas ce chiffre en tête, c'est un calcul que je ne connais pas. J'ai vu l'intervention de Jacques Baudrier, qui est la responsabilité du logement à Paris, sur la taxation des logements vacants.
Ouais.
Comme souvent en France, l'idée originelle, elle est bonne. Parce qu'il y a un vrai sujet sur la vacance des logements. Il y a environ 8% des logements en France qui sont vacants. Mine de rien, si vous voulez, c'est quasiment 3 millions de logements. C'est beaucoup sur l'ensemble du territoire. Donc, il est vrai qu'on pourrait imaginer un dispositif favorisant la remise sur le marché. Au-delà de ça, s'agissant de la politique particulière de Paris, on voit bien que la politique du logement à Paris était une politique répressive depuis des années, et que pour autant, ça porte pas ses fruits, et que la carence locative, elle est dramatique dans Paris. J'ai discuté encore dans les couloirs ici avec certaines gens qui cherchent des appartements à louer dans Paris et qui ont du mal à les trouver. Et une expérience encore récente qui, à 48 heures, l'une de mes agences qui a mis un studio à louer dans le 11e arrondissement à Paris et qui a reçu 200 demandes dans la matinée, qui a dû retirer l'annonce. Donc voilà, je sais pas si la politique de Monsieur Baudrier est la bonne ou pas. Ce que je constate, si vous voulez, c'est ce qui a été mis en œuvre par la mairie de Paris depuis 10 ou 15 ans, voire 12 ans, aujourd'hui, ça n'a pas d'effet. Au contraire, ça a un effet extrêmement négatif qui consiste à ce que les investisseurs privés font tout ce qu'ils peuvent pour sortir les biens du parc locatif privé. Donc, Monsieur Baudrier a raison d'insister sur le fait que ça crée de la déviance, et je suis tout à fait d'accord, ça crée des déviances. La question, c'est pourquoi est-ce que ça crée des déviances? Donc, je pense qu'il faut assainir le rapport propriétaire-bailleur, si vous voulez, et locataire, arriver à trouver une situation d'équilibre. C'est ce qu'essaye de faire le ministre en travaillant sur un statut. Monsieur Jeanbrun fait quand même pas mal avancer les choses sur un statut du bailleur privé que nous réclamons d'ailleurs à corps et à cri depuis des années. Bon, voilà, et qui pointe son nez, puisque ce dispositif-là, normalement, devrait être étudié à la rentrée.
Je veux qu'on revienne quelques instants sur la situation de climat qu'on a connu cet été, avec des gens qui sont sous les toits, mal logés en quelque sorte, puisque l'été ça devient des gens mal logés, qui préféraient dormir dans les parcs plutôt que de rester dans leur appartement. Est-ce que cette situation finalement de bouilloire thermique aujourd'hui, elle va peser à terme sur le marché encore plus que ce qu'il y a aujourd'hui? Et est-ce que ce que propose le gouvernement va dans le bon sens?
Alors, d'abord, c'est nouveau, cette notion de bouilloire thermique. Hein. On avait les passoires thermiques. Maintenant, on a les passoires thermiques et les bouilloires thermiques. Bon, très sincèrement, il faudrait que, là où nous vivons une situation climatique, on va le dire, qui est assez exceptionnelle depuis quasiment 3 semaines, avec une canicule qui est quand même inédite en France. Est-ce que, du coup, c'est lié véritablement à quelque chose qui est amené à perdurer dans une évolution de la situation du climat général dans le monde et en France en particulier? Ben ça, l'histoire va le dire. Voilà. Si ça reste une année un peu exceptionnelle, caniculaire, et que l'année prochaine, les températures redeviennent des températures, entre guillemets, normales par rapport, selon l'expression consacrée aux normes des saisons, bon, ça n'aura pas d'incidence. Si en revanche, on s'aperçoit que c'est durable dans le temps, ce qui est une tendance qui a l'air de se dessiner, ben là, du coup, on va se retrouver, c'est vrai, avec une problématique des bouilloires thermiques. Et il faudra prendre, là aussi, des dispositifs. Mais j'ai vu que le ministre avait signé hier un dispositif permettant de réduire la TVA sur les pompes à chaleur qui font à la fois le froid et le chaud. Donc, il y a déjà une prise en charge de ces sujets-là. Et donc, forcément, comme on s'est préoccupé du chaud, il va falloir, à un moment donné, si ça perdure, se préoccuper du froid. Et au même titre que le chaud, il n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre, si vous voulez, ces bouilloires thermiques, eh bien, ça ait une conséquence sur la valorisation du bien.
Qu'est-ce que vous attendez de cette année où les candidats vont faire des propositions concrètes, année présidentielle? Qu'est-ce que vous attendez concrètement pour le secteur?
Alors, nous, vous savez, dans le logement, il y a 3 segments de marché qui ne répondent pas des mêmes stimuli, qui n'ont pas les mêmes leviers. Il y a le dispositif qui est lié pour le neuf, qui est, je crois, vraiment un segment de marché qui est en très grande difficulté. Il y a un dispositif Jean Brun qui est en train de se mettre en place. Puis nous sommes davantage concernés par les transactions dans l'ancien. Nous, on fait pas appel, nous demandons pas d'aide de l'État. On demande pas à être aidé financièrement ou fiscalement par l'État. Ce qu'on demande, par contre, c'est de reconstituer les conditions de marché pour que le marché puisse s'autoréguler de manière satisfaisante. En gros, ça veut dire quoi? D'abord, en premier chef, garantir des conditions d'accès au crédit qui soient acceptables pour les Français. Ça veut dire des taux entre 3 et 3,5%, qui sont malgré tout des taux, on va dire, normaux. On sait tous qu'on ne reviendra pas au taux de 1%, donc il faut considérer que c'est normal. Voilà. Il faut considérer une inflation qui soit maîtrisée, parce qu'elle pourrait embarquer avec elle soit les prix, soit les taux de crédit, donc il faut aussi maîtriser cette inflation. Et puis fluidifier le plus possible la réglementation pour que les transactions soient favorisées. Voilà. Si l'ensemble de ce dispositif est réuni, je ne parle pas de la géopolitique, du contexte international, etc. Mmh. Mais si déjà ça, si vous voulez, le contexte était réuni, les planètes s'alignaient sur 3-4 sujets majeurs, eh bien nous, on sait qu'on est capable de s'autoréguler. D'ailleurs, c'est une démonstration qu'on fait depuis la nuit des temps. Je parle des transactions dans l'ancien. Restera l'épineux problème, vous le savez, du parc locatif privé. Le plus important peut-être, mais ce qui a l'air d'être le cas avec Vincent Jeanbrun, l'actuel ministre, c'est que la prise de conscience du gouvernement récente que le logement, c'est la première dépense des Français. D'accord? On parle de pouvoir d'achat, mais dans le pouvoir d'achat, on ne parle jamais du logement qui devrait être la préoccupation principale. Les Français consacrent 30 à 35% de leurs revenus au logement. Donc, c'est ça la clé du système.
Merci Charles Marinakis d'être venu ce matin dans la matinale
de
l'économie.
Invitation.
Président de Century 21 France sur ce plateau.